sur RTL. RTL Matin le week-end avec Antoine Cavallero.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. C'est parti pour 3 heures d'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h15. Toute l'équipe est là, présente en studio. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour tout le monde.
Vous réglez votre casque?
Ouais, les garçons, vous pouvez mettre un petit peu de retour en studio, s'il vous plaît.
Allez, les garçons, on s'active.
On va faire notre tambouille. Hein.
Je crois que c'est bon. Ça vous va, Valérie?
C'est parfait.
Jean-Sébastien Petit-Demange, est-ce que vous êtes fortaise? Bonjour.
Je suis très bien, bonjour à tous.
Bonjour les garçons.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Et Nolan ne veut pas parler, Nolan est en train de régler, régler les derniers détails.
C'est temps.
Ce matin, nous visitons l'Île-de-France, car quand on parle tourisme, on parle toujours de Paris, jamais de la région environnante. Et pourtant, il y a des choses à découvrir. Je vous rassure, on sera tout de même dans le cœur de la capitale, car c'est l'événement du jour. Montmartre à l'honneur ce dimanche. La butte gravie par les coureurs du Tour de France. Nous sommes en direct. Bonjour Flora Granchette.
Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous.
Pas de camping-car encore, pas de tente sur les trottoirs de la rue Le Pic. Mais il va y avoir de la ferveur cet après-midi.
Oui, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues ici sur la butte pour le passage des coureurs. Les barrières sont déjà installées un peu partout, il y a quelques banderoles accrochées. Mais je vous avoue que c'est encore un peu calme, hein. En plus il pleut. Donc là, je me suis un peu abritée. Mais bon, j'espère que quand même je vais être rejoint par quelques férus de cyclisme. Hein.
On l'espère aussi, Flora Granchette, reporter fil rouge de cette matinale. On va en profiter donc pour visiter Montmartre. Les auditeurs, vous avez les réseaux sociaux à disposition, les SMS au 64 900 avec le mot matin, c'est 35 centimes le message. Vous avez le 3210 pour nous appeler, 50 centimes la minute. On va également jouer. Bienvenue sur RTL.
Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Weekend.
Nous sommes le dimanche 27 juillet, il est 6h. Et voici un premier journal présenté par Nathalie Michet. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
L'information, c'est cet incendie, plus de 600 hectares ravagés par les flammes dans l'Aude.
Un incendie dans un secteur touristique au sud de Narbonne, aux abords de l'autoroute A9 très fréquentée. Au moins 2 habitations endommagées, des centaines de personnes évacuées hier soir ont fait le point dans ce journal. Le choc dans le Puy-de-Dôme après un nouvel accident mortel sur le rallye de la Fourme d'Amber, le deuxième en 2 ans. Hier, 3 spectateurs ont été fauchés par la sortie d'un bolide en pleine ligne droite. Les talents de négociatrice d'Ursula von der Leyen vont-ils faire mouche? La présidente de la Commission européenne retrouve Donald Trump ce dimanche pour arracher un accord commercial. Et puis dans le peloton du Tour de France, cap sur la ligne d'arrivée à Paris avec le français Jordan Jegat à son tour dans le top 10.
RTL Matin.
Les pompiers de l'Aude restent donc mobilisés ce matin sur l'incendie de Sigean.
Attisés par des vents violents, les flammes ont parcouru au moins 600 hectares, se dirigeant plus au sud vers Port-la-Nouvelle. Résultat, Hermine Leclèche, des évacuations et la pagaille hier sur les routes.
Oui, notamment sur l'autoroute A9, déjà surchargée par les départs en vacances. Les automobilistes se sont retrouvés à l'arrêt sur près de 15 km. Mais rapidement, ce sont les habitations qui ont été menacées par les flammes. Une douzaine de maisons évacuées dans la commune de Sigean, où habite Jean-Pierre. Il répond aux questions de Valentin Larquier.
En l'espace de 10 minutes, il a fallu évacuer. On a pris nos papiers et nous ont dit, hop, vous sortez. Il y avait des flammes de 15 mètres par moment. Ça prenait des arbres et derrière, il y a quelques pins. Et lorsque ça s'embrase, c'est énorme. Il y a 2 semaines, ça a balayé tout le fameux feu de 2000 hectares. Là. Et là, ça recommence.
Au total, plus de 1000 personnes ont dû quitter leur domicile hier à Sigean, mais aussi dans la ville de Port-la-Nouvelle, où une vingtaine d'habitations et un camping sont menacés par les flammes. 5000 foyers ont été privés d'électricité. Alors tout l'enjeu désormais, c'est de protéger cette station balnéaire en pleine saison touristique. 600 pompiers ont lutté toute la nuit contre les flammes. Ils doivent être rejoints ce matin par les Canadairs.
Merci Hermine. Et risque d'incendie très élevé dans les autres départements du Sud. Ce dimanche, le Var et les Bouches-du-Rhône sont en alerte rouge. rouge. À l'autre bout de la Méditerranée, en Grèce, tous les sapeurs-pompiers du pays sont en état d'alerte, avec plus de 50 départs de feu en une seule journée et en pleine canicule.
Dans le Puy-de-Dôme, beaucoup de questions après l'accident qui a coûté la vie à 3 spectateurs hier lors d'un rallye automobile.
3 hommes âgés de 44, 60 et 70 ans, ils ont été fauchés lors du rallye de la Fourme d'Ambert sur la commune de Saint-Just, une compétition déjà endeuillée l'an dernier par la mort d'un commissaire de course. Cette fois, Simon Marseille, on ne comprend pas comment la voiture a pu effectuer une sortie de route.
Oui, car cette partie de la route qui traverse les champs de maïs n'est certes pas très large, mais elle est parfaitement rectiligne. Patrick, un habitant du coin, l'emprunte tous les jours.
C'est un endroit improbable où cette voiture elle sorte et c'est des circonstances qui sont dramatiques. Je ne pense pas que ce soit un problème d'organisation, hein, puisque toute la sécurité était bien mise en place. Franchement, c'est terrible.
Et il y avait bien ce panneau rouge, désormais à moitié couché sur le bas-côté. Course automobile accès strictement interdit. Ce rallye est-il maudit ? S'interroge Patrick. L'an dernier, déjà un homme avait été mortellement fauché lors de la même course. Nouvelle blessure sur une plaie qui peine à cicatriser ici. Et cela s'entend dans les mots du maire de Saint-Just, François Chautard.
Ça me fait, moi c'est surtout famille que je pense, hein, les familles des victimes. Donc ça fait 30 ans que le rallye existe et ces deux dernières années, c'est catastrophe sur catastrophe. Voilà, donc le ressenti, la tristesse, l'émotion, voilà.
Et hier soir, il restait encore des éclats de pare-brise, des morceaux de carrosserie, des épis de maïs par dizaines totalement écrasés. Autant d'indices entourés d'un marquage orange soigneusement tracé par les enquêteurs.
Le récit de Simon Marseille dans le Puy-de-Dôme pour RTL.
On en vient aux réactions outrées dans le camp de Marion Maréchal après les accusations tenues sur RTL hier matin par Éric Dupond-Moretti.
Nous laissons l'ancien ministre à ses élucubrations, répond l'entourage de la députée européenne alors que l'ancien garde des accuse l'extrême droite et plus précisément Marion Maréchal d'être proche de l'influenceuse américaine Candace Owens, cette complotiste poursuivie pour diffamation aux États-Unis par le couple présidentiel français pour avoir activement propagé la fausse rumeur selon laquelle Brigitte Macron était un homme à sa naissance. Proche de Marion Maréchal, l'ancien eurodéputé Gilbert Collard accuse lui, Éric Dupond-Moretti, de complotisme. Vous les entendrez tous les deux dans le journal de 7h.
Ursula von der Leyen en mission pour défendre l'économie européenne.
Arrivée en Écosse hier, la présidente de la Commission européenne doit rencontrer Donald Trump aujourd'hui pour tenter d'obtenir donc un accord commercial et éviter la facture très salée des 30% de taxes à compter du 1er août. D'après les derniers signaux envoyés de part et d'autre, les négociations ont de bonnes chances d'aboutir. Mais dans le cas contraire, l'UE se tient prête à répliquer. Benjamin Haddad, le ministre délégué chargé de l'Europe, était notre invité hier dans RTL Soir.
Nous, on souhaite un accord. L'objectif, c'est d'avoir une désescalade et un accord qui est dans l'intérêt de tous. Mais on l'a dit, les Européens doivent aussi se préparer à répondre en cas d'absence d'accord ou d'accord qui ne serait pas suffisamment équilibré. Nous en avons les moyens. Nous ne sommes pas faibles. Nous sommes un grand marché unique intégré avec 450 millions d'individus, un des premiers partenaires commerciaux des États-Unis. C'est pour ça que nous avons demandé à la Commission européenne, premièrement, de préparer un paquet de contre-mesures de l'ordre de 100 milliards d'euros sur des importations de biens des États-Unis pour pouvoir riposter, mais aussi d'aller plus loin avec l'activation de ce qu'on appelle l'instrument anti-coercition qui nous permettrait notamment de taxer les services numériques américains dont on sait qu'on est importateur, on est consommateur et donc c'est ce qui nous permettra aussi d'assumer un rapport de force dans ces négociations.
Benjamin Haddad, interviewé par Guillaume Ouattara dans RTL Soir.
Et le séjour de Donald Trump en Écosse donne lieu à des manifestations.
Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Édimbourg et Aberdeen pour dire au président américain qu'il n'était pas le bienvenu. Mobilisation liée notamment à la crise humanitaire dans la bande de Gaza. La nuit dernière, Israël a annoncé avoir parachuté de la farine, du sucre et des conserves dans l'enclave palestinienne réduite à la famine. Une réponse jugée inefficace et dangereuse par le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens.
RTL Matin.
Ils font partie du décor dans toutes les stations balnéaires. Les goélands deviennent un sujet d'angoisse.
Alors, on n'en est pas encore au film d'Hitchcock, Les oiseaux, mais c'est vrai que voir un goéland rôder autour de son sandwich, ça peut faire transpirer. Attiré par les poubelles qui débordent, ces grands oiseaux marins sont de plus en plus nombreux dans les villes du littoral, au point, Romaric Caillé, d'effrayer les touristes près des plages du Touquet.
Oui, assise sur un banc, Juliette déguste sa gaufre, observée et entourée par une dizaine de goélands.
On les voit, ils sont coriaces, hein. Ils restent là à côté, ils attendent. C'est à peine s'ils ne vont pas venir dans ton assiette te piquer un truc. Parce qu'ils sont quand même assez gros, hein. Ils sont impressionnants. Donc ouais, il faut faire attention, quoi. C'est bien de réguler.
En 10 ans, la population de goélands a augmenté de 40%. Alors la mairie a décidé de durcir le ton. Les restaurateurs doivent faire attention à leurs poubelles, rappelle Franck, le chef de la police municipale.
Ce qu'il faut, c'est éviter de leur donner le gîte et le couvert. Les commerçants, les restaurateurs qui ne jouent pas le jeu et qui ne respectent pas les règles d'hygiène et de stockage des déchets, sont sanctionnés. Ne pas leur offrir la nourriture, ça va les inciter à quitter le territoire.
Deux restaurants et un club de plage ont été sanctionnés pour avoir laissé leurs poubelles éventrées. Ils ont dû fermer plusieurs jours, décision plus ou moins comprise. Daniel tient une brasserie dans le centre-ville.
Oh, c'est un peu un sujet tabou, les goélands, surtout en ce moment. Il faut bien fermer ses poubelles. Nos poubelles sont fermées avec les couvercles.
Pour les vacanciers, nourrir un goéland peut vous exposer à une amende allant jusqu'à 450 euros.
Le reportage de Romaric Caillé. Pour ceux qui se baignent sur la côte atlantique, soyez très prudents aujourd'hui et demain. Alerte aux baïnes sur les plages de la Nouvelle-Aquitaine. Risque maximal de se faire emporter par le courant. Il faut absolument rester dans les zones de baignade surveillées.
Et 6h09 sur RTL, on rejoint la grande boucle.
Tour de France 2025 sur RTL.
Dernier jour, dernière étape pour le Tour de France avec l'arrivée à Paris cet après-midi et le sacre quasi inévitable de Tadej Pogacar. Bonne surprise après l'avant-dernière étape hier dans le Jura remportée par Caden Groves, un deuxième Français, est entré dans le top 10. C'est le Morbihanais Jordan Jegat qui est ravi d'avoir rejoint l'échappée.
C'est bon, on peut s'applaudir, non?
Ouais, je suis allé la chercher. C'est vrai que j'ai mis ce que j'ai à mettre sur la route et voilà, maintenant ça paye et forcément je suis ému et forcément heureux. J'avais à cœur de donner ça à l'équipe et à toutes les personnes qui me supportent. Vraiment, souvent, comme on dit, je suis un peu en dehors des radars, je suis quelqu'un de discret. Mais c'est parce que voilà, j'ai pas la victoire, je suis toujours un peu en dessous des résultats et forcément, quand il y a le top 10 du tour, c'est que les 10 premiers, c'est pas long. Donc être dans les 10 c'est toujours mieux. Il reste une étape demain et j'ai pas aller à l'attaque. Non, si je veux être super combatif, il faut que je rattaque demain.
Jordan Jegat, 10e du classement. Kevin Vauclin, toujours 7e. Et vous vivrez au plus près la dernière étape du Tour de France sur RTL avec, comme chaque jour depuis le début, les directs toutes les demi-heures dès le départ. Et ensuite, à l'arrivée, le Club Jalabert à 18h30. Et ce soir, émission spéciale dès 19h avec Hortense Crépin et les envoyés spéciaux de RTL.
Merci Nathalie Michet. À tout à l'heure. Valérie Quintin, les prévisions météo. Une question, pourquoi la pluie?
Alors pourquoi pas? Et puis en plus,
on
en a besoin.
Non, on n'en veut pas.
Et figurez-vous qu'on en aurait bien besoin dans le sud-est et que malheureusement, il n'y aura pas une goutte de pluie encore aujourd'hui dans les régions méditerranéennes, mais à contrario, des vents toujours très forts. Mistral et Tramontane soufflent encore fort ce matin du Roussillon à la Provence. Ce sera encore le cas toute la journée. Des vents qui seront encore plus forts demain avant une petite baisse au milieu de semaine. Alors pour les autres, donc effectivement, nous avons des pluies qui traversent le pays, essentiellement la moitié nord. Ça va se concentrer dans l'est au fil des heures. Nord-est, Alpes, Massif central en descendant jusqu'au midi toulousain, donc près de la Méditerranée, du ciel bleu. Et puis à l'arrière de ces pluies, quand même, le nord et le nord-ouest vont retrouver un ciel mitigé cet après-midi, ce qu'on a connu depuis le début de la semaine, des passages nuageux, quelques petites éclaircies et des averses. On a 14 degrés à Brest et Saint-Étienne en ce moment, 17 à Strasbourg et Bergerac, 18 à Dunkerque et Paris, 24 à Montpellier. Dans l'après-midi, même fourchette qu'hier, de 20 à 31 degrés.
Merci Valérie, 64 900 code matin pour la météo chez vous. On veut tout savoir. Les courses, le quintet, c'est à la Teste de Buch, départ à 15h20. Alexandre de Koopman vous conseille de jouer le 16, le 14, le 15, le 11, le 12, le 2, le 10. L'outsider de RTL, c'est le numéro 12. It just may be a lucky day. With no rain, well, it's hard to say. But hey, have a little faith. The pain will go away. Snap your fingers and make a change. Don't know how, when, where, which way. But hey, have a little faith. The pain will go away. Just move. Even if it's one step, two steps, three steps back. Maybe back some new on track. Bet you didn't think of that. Just true. Don't sing it one time, two times, three times loud. Maybe loud's a brand new crowd. Wait, what? I tried to pray, but it only got stronger, making me wonder what's going on here. I can't wait for that day when love can be free and I could be me. Now that can be my version of therapy. Pray, oh, pray, I don't know, pray, oh, just pray. Let's
my dad said, toughen up. Rub some dirt in it like it's rough. But hey, we all make mistakes. It's gonna be okay. One shot, don't go wasted on silly dreams. Like being what you ain't supposed to be. Cause hey, you gotta find your way. That's why you gotta pray. Just move. Even if it's one step, two steps, three steps back. Baby bags and do on track. Bet you didn't think of that. Just ooh, ooh, ooh. Sing it one time, two times, three times loud. Maybe loud's a brand new crowd. Oh, I tried to pray, 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 pray. But it only got stronger, making me wonder what's going on here. I can't wait for that day when love can be free and I can be me. Now that can be my version of therapy.
Ce petit côté gospel, ça a sûrement un rapport avec le titre, hein, non? Ça s'appelle Pray, c'est Scott Oying et c'est bien. Hein.
Et c'est un très très bon choix. C'est
très bon choix.
Le réalisateur
ça
de
réconcilie avec le dimanche matin.
On est heureux de passer des dimanches matins quand ça commence comme ça. Dans un instant, c'est le tour de table de RTL Matin Weekend. On va explorer la région parisienne. Jean-Seb Petit-Demange en studio, Flora Granchette en direct de la Butte Montmartre. Le jeu, le cadeau, c'est Valérie qui régale. À tout de suite.
Antoine Cavallero, RTL Matin Weekend. Vous écoutez RTL ? RTL vous écoute.
Cet été, je vais avoir la chance de parcourir la France dans ma valise, des chaussures de marche, mes lunettes de soleil, sans oublier RTL pour continuer de vivre ensemble.
Vous êtes près de 20 millions à écouter RTL chaque mois. Merci. RTL Matin le Weekend, avec Antoine Cavallero.
Il est 6h14, c'est notre objectif cet été, vous faire voyager, vous apprendre des choses sur les régions de notre pays. Ce dimanche, le Tour de France va se conclure avec Montmartre et les Champs-Élysées, évidemment. Le peloton part de Mantes-la-Jolie. Jean-Sébastien Petit-Demange,
oui.
Tout cela vous donne des envies de balade en région parisienne.
Bah, vous aussi, j'espère.
Et
c'est une région qu'on ne connaît pas forcément. Paris, on voit bien ce que c'est. Mais c'est pas ce dont il va être question. Paris capitale, elle est omniprésente, omnipotente en France, ça d'accord. Pas simple pour le reste de la région Île-de-France d'exister et de se faire une place, que ce soit au niveau économique, patrimonial et touristique. Pourtant, à y regarder de près, l'Île-de-France brille de mille trésors qui en font une vraie belle destination de choix. Alors je vous passe le parc d'attractions de la Souris qui attire quelques dizaines de millions de personnes depuis des années. L'éclat de la région, elle le doit d'abord au rayon du soleil qui était roi et qui nous a légué le château de Versailles. Versailles, c'est 8 millions de visiteurs chaque année. C'est dans le top 5 des sites les plus visités en France. Mais on compte aussi d'autres châteaux prestigieux. Saint-Germain-en-Laye, Vaux-le-Vicomte, le château de Courson, celui de Nemours, celui de Rambouillet, et puis celui de Fontainebleau, pour lequel j'ai un faible. Napoléon Ier disait, c'est la vraie demeure des rois et la maison des siècles.
On va en reparler tout à l'heure.
Et puis alors, un peu partout, des peintres ont laissé traîner leurs toiles et leurs gouaches. C'est dire si les paysages de la région sont superbes. Premier exemple, les coureurs du Tour de France partent de Mantes-la-Ville, commune juste à côté de Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie possède une collégiale du 12e, et cette collégiale Notre-Dame, en bord de Seine, eh ben, elle fut chère à beaucoup de peintres, dont Turner et Corot. Faut dire qu'elle est impressionnante. Un portail, un chevet, des chefs-d'œuvre du gothique et une nef de 30 mètres de haut. Par Bison également, à côté de Fontainebleau, village célèbre pour son école de peinture de paysagiste, qui a vu naître l'impressionnisme. C'est pas rien. Des impressionnistes qui ont largement immortalisé les rives de la Seine. Et puis si on met le cap au nord, on pense aussi à Auvers-sur-Oise. Village authentique qui a été préservé. Et Vincent Van Gogh écrirait encore à son frère Théo « C'est gravement beau ». Rien d'étonnant à ce qu'il soit resté 70 jours à Auvers. Il a peint 71 toiles avant de mettre fin à ses jours. Il est enterré au cimetière, aux côtés de son frère. Le cimetière, l'auberge Ravoux, la maison du docteur Gachet, trois sites historiques d'Auvers. Et des sites comme ça, il y en a à peu près partout en Île-de-France.
Merci Jean-Sébastien Petit-Demange. Programme alléchant, appétissant, la région parisienne rurale et typique avec vous Jean-Seb. Et Paris intramuros, ça c'est avec notre reporter du matin, Flora Granchette, en direct de Montmartre, sous la pluie. Reporter fil rouge en direct de la rue Le Pic, qui va donc accueillir le peloton du Tour de France. Flora, c'est vraiment une rue chargée d'histoire.
Ah oui, complètement. La rue Le Pic, c'est vraiment l'âme de Montmartre, avec ses pavés, bien sûr, et puis ces virages que vont apprécier les coureurs tout à l'heure. Alors, c'est une artère centrale. Vraiment, elle part de la Place Blanche, près du Moulin Rouge, et elle va au cœur du quartier. Et j'ai pu faire une petite visite de la rue avec Claire de Montmartre. J'invente rien, c'est son nom de guide. Elle connaît le quartier comme sa poche. Claire, la rue Le Pic, c'est toute l'histoire de Montmartre.
Oui, tout à fait. C'est une rue qui avait été déjà souhaitée au 19e siècle par Napoléon Bonaparte, qui est très l'ancien chemin neuf de Montmartre. Une rue aujourd'hui tellement vivante, où vous pouvez voir plein de commerçants et d'artistes d'hier et d'aujourd'hui qui hantent encore cette rue.
Parce que c'est une rue qui a toujours été vivante, c'est une rue d'artistes. Il y a beaucoup de grands noms qui ont, on va dire, marché sur ces pavés, du coup, en deux siècles, trois siècles.
Tout à fait. Souvent, quand on pense à la rue Le Pic, on pense à Vincent Van Gogh, qui a vécu chez son frère Théo au 54, et qui a même peint, depuis le troisième étage, la vue qu'il avait sur la rue Le Pic. On peut penser aussi au fameux Café des Deux Moulins, où Amélie était serveuse, un lieu emblématique du tournage du film, où aujourd'hui on peut y manger des crèmes brûlées.
Et du coup, justement, en parlant d'Amélie Poulain, j'imagine que beaucoup de touristes qui font appel à vous pour en apprendre un peu plus sur Montmartre, ils ont connu Montmartre grâce aux films, aux séries qui ont été tournées ici. Donc la rue Le Pic, elle a été vraiment l'objet de beaucoup de tournages.
Oui, de la grande traversée de Paris où la rue Le Pic est citée jusqu'à Amélie Poulain, le café des Deux Moulins. En effet, ça a toujours été un lieu d'inspiration pour les cinéastes aussi.
Et de ce que j'ai compris, c'est aussi une rue qui a marqué l'histoire, pas que de Montmartre, l'histoire de l'automobile aussi. Vous m'avez un petit peu expliqué.
Oui, tout à fait. Vous savez que Louis Renault, la première fois qu'il a conduit à Montmartre, il arrive en automobile le 28 décembre 1898. Il franchit toute la rue Le Pic et il arrive jusqu'à la place du Tertre. C'est le début de l'industrie automobile française. Aucun chevaux ne l'a aidé à monter. C'est vraiment la première voiture à pétrole.
La petite histoire donc de cette rue Le Pic qui se joint, donc vous l'avez compris, à l'histoire de l'automobile et depuis l'année dernière à l'histoire du cyclisme avec les Jeux Olympiques et maintenant le Tour de France cette année.
Mais oui, merci Flora Granchette en direct de la butte Montmartre, là où va se battre le peloton tout à l'heure. Montmartre qui vous a inspiré un nouveau jeu, Valérie. Alors je donne d'abord le cadeau. Ce matin, RTL vous fait gagner un séjour du 25 au 30 août prochain pour la 18e édition du Festival du film francophone d'Angoulême. On vous offre un séjour pour deux personnes pour la soirée de clôture. Donc le 30 août, vous êtes logé, on vous paye le billet de train, on vous accrédite, on vous invite à la cérémonie avec le dîner. Je rappelle que c'est Diane Kruger qui préside le festival cette année. Bref, c'est la promesse d'un super week-end à Angoulême. Comment gagner, Valérie? On vous écoute.
Il faut répondre à ces trois questions. C'est assez facile, honnêtement. On parle de Montmartre, sa reine incontestée, avec sa maison qui est devenue un lieu touristique. Elle y a aussi une place à son nom depuis 1997. Vous ne pouvez pas la rater. Ça va, c'est assez facile.
On tient le bras.
Ok, maintenant vous allez me trouver un film français de Michel Genet. Ça c'est très facile. Entre la rue des Saules, la rue Custine et la place du Tertre.
Et Nino, il est là?
Non, jamais le mercredi, il travaille à la fin du trône.
Pour sa petite amie, ça doit pas être facile tous les jours.
Ah non, mais il a jamais été fichu d'en garder une seule. Les temps sont durs pour les rêveurs.
Le titre de ce film, elle avait une petite cuillère à la main en permanence dans tout le film. Petit indice. Enfin, un dernier artiste, sa carrière a commencé dans les années 60. Il avait une guitare à la main, il chantait au pied des marches du Sacré-Cœur et c'est là qu'il a été découvert.
C'est très très facile ce matin, Valérie. Hein.
Une chanteuse, un titre de film, un chanteur. Faites vos jeux.
Les trois bonnes réponses, vous nous appelez. 3210, 3210 pour tenter votre chance de remporter ce séjour à Angoulême pour la cérémonie de clôture du Festival du film francophone. On poursuit en musique. Valérie, qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce que vous le savez?
Dua Lipa?
Oui, je crois que c'est
Pierre
ça.
Pierre Demar?
Ah bah très bien. Et comment ça s'appelle?
These Walls.
Parfait.
Maybe we should switch careers, 'cause baby, you know no.
discute entre nous comme ça pendant. On écoute aussi, mais on discute parfois. C'était Dua Lipa et Pierre Demar.
Et ça s'appelle This Waltz. Merci d'avoir mis le réveil aussitôt un dimanche 2 juillet. Il est 6h23.
RTL. L'été dans le rétro.
Et tous les week-ends, Christophe Bourreau revient sur une innovation qui a changé la vie des automobilistes ce matin, l'arrivée des pompes à essence.
Nous sommes bien avant l'arrivée des pompes à essence, à la fin du 19e siècle. Et là, pas simple pour un automobiliste de se ravitailler, de faire le plein, explique Hervé Charpentier, le conservateur du musée de l'aventure Peugeot à Sochaux.
Alors au tout début de l'automobile, il faut bien s'imaginer qu'il n'y a pas de pompe à essence. Quand on veut aller acheter de l'essence, eh bien, il faut aller chez le pharmacien ou chez le droguiste pour pouvoir se fournir en carburant.
Ainsi, les pharmacies, drogueries, mais aussi épiceries, sont les ancêtres des stations-service, et oui, où l'on trouvait d'abord de l'essence en bouteille, puis en bidon de 5 ou 10 litres. Et ce n'est que dans les années 20 qu'apparaissent en France les premières pompes avec un fonctionnement particulier.
C'est les Américains évidemment qui ont fait les premières pompes.
Thierry Dubois est le grand spécialiste de l'histoire de nos routes françaises et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet.
Alors c'était vraiment des pompes à main, là il fallait pomper pour faire monter l'essence et le verser dans la voiture. Alors en général, il y avait deux globes transparents, un se remplissait à la pompe pendant que l'autre se vidait dans le réservoir. Ça permettait pour le client d'être assuré que l'essence coulait bien dans sa voiture et qu'il y avait la quantité qu'il avait achetée.
Ainsi, les pompes à essence vont se multiplier à mesure que les voitures vont, elles, se démocratiser, mais pas toujours d'une super fiabilité.
Et il y avait ce qu'on appelait à l'époque la limite des 200 km, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui, malheureusement, ne dépassaient pas 200 km, parce qu'elles ne roulaient pas toute l'année. Et puis de se lancer tout de suite à 110, 120, 130 sur l'autoroute, le réveil était brutal. Et en général, le joint de culasse déclarait forfait à 200 km. Donc, on retrouvait plein de garages à 200 km de Paris.
Garage, pompe à essence, tout un commerce se crée dans les années 70. La France compte pas moins de 50 000 stations avec les pompistes à la manœuvre. Se souvient Marie-Thérèse Pousse, 84 ans, qui sert encore du carburant dans la station de son fils. Arnage, c'est près du Mans.
Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers ?
Du 95.
Je vous fais le plein ? D'accord.
Vous savez combien vous avez fait de plein dans votre vie à peu près ?
Impossible. Au début, on avait des voitures anciennes. J'étais obligée de monter sur l'aile pour arriver parce que le réservoir se trouvait au milieu du capot. Voilà, 41 euros.
Le maître mot, c'est le service. Et les enseignes vont de plus en plus chercher, par tous les moyens, à fidéliser les automobilistes, avec notamment les fameux cadeaux publicitaires.
Les gens de ma génération se souviennent des bateaux Fina, parce qu'avec un certain nombre de pleins d'essence, on avait d'abord une bouée, ensuite une grosse bouée, ensuite un matelas, et pour finir, un bateau.
Attends, mais je rêve ou quoi ?
Vous avez vu les nouveaux cadeaux qu'on peut avoir ?
Non. Super.
Des verres ?
Des verres à pied, oui.
Ils sont chouettes.
Regardez, on peut aussi avoir des disques compacts.
Un super prix.
C'est loin d'être bête.
Mais c'est surtout le prix qui va devenir un argument pour attirer les clients. En pointe du combat, Leclerc, qui dans les années 70-80, milite pour un carburant plus accessible.
Ce matin, dans l'un de ces centres de la banlieue parisienne, c'était l'interminable procession des véhicules et de leurs conducteurs, attirés par la bonne aubaine.
Ayant appris la situation, je viens à toute vitesse, c'est normal. Ça vaut le coup de se déplacer et de venir essayer de faire un petit bénéfice.
Et finalement, en 85, les prix du carburant sont fixés librement. Une aubaine pour les grandes surfaces qui représentent désormais près de la moitié des 11 000 stations en France et qui distribuent 60% de l'essence.
Et vous savez tout sur les pompes à essence grâce à Christophe Bourreau. L'été dans le rétro, série à retrouver sur RTL.fr. Vos grosses têtes, ça c'est avec Laurent Ruquier. Tous les matins, vous avez droit à un extrait, une anecdote médicale.
Jusqu'en 1803, n'importe qui pouvait se déclarer médecin. Et à partir du 10 mars 1803, c'est la loi du 19 Ventôve en 11, on a institué la notion d'exercice illégal de la médecine qui existe toujours aujourd'hui, évidemment.
Mais je crois que sexologue ne nécessite pas de diplôme.
Ah bah, psychanalyste si. Non plus.
Ah bah, voilà.
Non, mais sexologie, tu peux passer soit par la psychothérapie, soit par la partie médecine.
Grâce à ton vécu, tu peux analyser ce qu'ils ont vécu les gens et leur donner des conseils. On est toujours plus efficace pour les autres que pour soi-même.
Ah, mais ça dépend quand même.
Ah, médium, il n'y a pas de diplôme.
Eh ben, moi, je me mets
moi, je vais donner des cours de diction, tiens.
Ha ha ha! Orthophoniste.
Orthopédiste, quand tu parles comme un pied.
Vos grosses têtes, vous retrouvez Laurent Ruquier dès 15h30. Michel Dépinal est déjà debout. Il a 17 degrés, des nuages, Valérie Quintin.
Alors, c'est quand même pas mal nuageux. J'en profite pour dire courage à Aude Emmanuel, qui est manifestement toujours en camping du côté d'Apremont. Elle a 13 degrés ce matin. Elle me demande si je peux libérer le soleil et couper le robinet. Alors, ce matin, ça va, en fait, hein, en Savoie, Haute-Savoie, c'est plutôt lumineux. On a un petit paquet, donc, nuageux, parsemé de quelques pluies orageuses qui circulent essentiellement sur la moitié nord du pays. Ça va être le cas toute la journée, mais du coup, ces pluies vont un peu avancer vers l'est. On les retrouvera et ça tournera à l'orage entre la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté et la Haute-Savoie dans le courant de la journée. Un régime d'averse se mettra en place à ce moment-là entre le Massif central et les Pyrénées. Alors, à l'avant de tout cela, près de la Méditerranée, pas une goutte d'eau, malheureusement, et toujours beaucoup de vent. Mistral et Tramontane souffleront entre 60 et 70 km/h en pointe toute la journée. C'est déjà le cas ce matin. Ce sera encore le cas ce soir. Et puis, à l'arrière de ce gros paquet nuageux parsemé donc d'averses orageuses, le nord et le nord-ouest vont peu à peu retrouver un ciel changeant passé la mi-journée avec des passages nuageux, certes, mais aussi quelques éclaircies entre les averses. On attend 20 degrés à Saint-Brieuc aujourd'hui, 22 à Biarritz et Verdun, 23 degrés à Limoges comme à Thonon-les-Bains, 24 à Paris, 26 à Cahors, jusqu'à 31 pour Avignon.
La météo chez vous, 64 900, code matin pour les SMS, les réseaux sociaux de RTL Matin Week-end. Merci beaucoup Valérie Quintin, on est ravis de vous accompagner. RTL 6h30.
RTL Matin.
Et toute l'actualité avec Chloé Geffroy. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Alors l'été bat son plein, vous êtes nombreux sur les plages en ce moment. Et on voulait vous parler ce matin sur RTL d'un fléau qui empoisonne le nord de la Bretagne.
Un dossier vieux d'un demi-siècle, celui des algues vertes, poison d'une partie du littoral breton qui vit au rythme des marées vertes. Chaque été, les algues s'échouent sur les plages et dégagent en pourrissant un gaz mortel en cas d'exposition à de fortes concentrations. Catastrophe environnementale et bête noire du tourisme local. À Ilion, en Bête-Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, des plages ont même dû être fermées, Charles Guyard.
Des plages sauvages, du sable fin, la carte postale pourrait être idéale, sauf que...
Quand on parle d'Ilion, c'est des algues.
Voilà l'image que renvoie cette station balnéaire des Côtes d'Armor, du vert comme la couleur des fameuses algues, et puis il y a les effluves aussi.
Il y a des odeurs, oui. Ouais, ça sent. Ouais.
Ça sent l'œuf pourri, et en plus d'être nauséabond, ces dégagements sont susceptibles d'être nocifs pour la santé.
Il y a 20-30 ans, oui. Il y avait beaucoup de monde sur la plage, et on se baignait par ici. Moi, je me baigne plus là, hein. À cause des algues.
Mes petits-enfants, moi, ils ont leurs grands-parents qui habitent juste au-dessus, là, hein. Ils sont obligés d'aller ailleurs. Hein.
C'est catastrophique. Hein.
Catastrophique, notamment pour le tourisme. Depuis début juillet, certaines plages ont ainsi dû être fermées à cause des taux d'hydrogène sulfuré trop élevés. Résultat, dans son camping, la gérante Camille, c'est un prénom d'emprunt, déplore des réservations en baisse cet été.
C'est clair que nous, on est touchés. Forcément, je pense que les gens, ils ont dû entendre tout ça. Ah, ils nous posent des questions, oui, bien sûr. Ils nous demandent si c'est dangereux, s'ils peuvent aller se baigner. Il faut absolument faire quelque chose quand même.
Parmi les 500 agriculteurs costa-armoricains, ceux qui ne se seront pas mis en conformité avec le plan Algues Vertes 2022-2027 pourrait être sanctionné dès septembre prochain.
Le reportage de Charles Guyard l'année dernière, 14 000 tonnes d'algues ont été ramassées sur les plages des Côtes d'Armor, le département breton le plus touché et à chaque littoral sa problématique. En Nouvelle-Aquitaine, ce sont les baïnes qui inquiètent sur les plages. Nouvelle alerte des autorités, les risques de courant ou baïnes est maximal aujourd'hui et demain. Les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde et la Charente-Maritime sont concernées. La saison des feux se poursuit. Un incendie s'est déclaré hier après-midi à Sigean dans l'Aude, attisé par des vents très violents. 600 hectares parcourus. Les flammes ont endommagé deux maisons avant de se diriger vers Port-la-Nouvelle, un secteur touristique du littoral méditerranéen, où deux campings et un lotissement ont été évacués par précaution. Hier en fin de journée, 630 pompiers étaient encore mobilisés. Une tragédie pour le monde de la course et du rallye. Les mots du préfet du Puy-de-Dôme après la mort de trois personnes percutées par une voiture lors d'un rallye hier matin dans la commune de Saint-Just. L'année dernière déjà, un commissaire de course avait été tué sur cette même compétition. L'enquête pour homicide involontaire diligentée par le parquet de Clermont-Ferrand devra déterminer les circonstances de ce drame.
Il y a des rendez-vous plus importants que d'autres.
Celui entre Donald Trump et Ursula von der Leyen cet après-midi en Écosse en fait partie. Fini les parties de golf. Le président américain doit rencontrer la présidente de la Commission européenne pour parler du dossier ô combien explosif exclusif des droits de douane. Objectif, trouver un accord avant le 1er août. Date butoir à partir de laquelle Donald Trump menace d'imposer les taxes douanières de 30% sur toutes les importations en provenance d'Europe. Et il y a un espoir que les négociations aboutissent, Marie Billon.
Donald Trump semble être d'humeur à aligner les swings au golf et les accords en politique. Les chances d'un deal avec l'Union européenne sont de 50-50, c'est ce qu'il a dit en arrivant en Écosse vendredi. Et il a aussi précisé que si cet accord était signé, ce serait le plus grand qu'il aurait conclu jusque-là. Ursula von der Leyen espère un deal qui ressemblerait un peu à celui que les Britanniques ont conclu avec Donald Trump. En mai dernier, Keir Starmer avait réussi à faire baisser les droits de douane sur l'automobile et l'éthanol notamment de 27,5% à 10%, bien qu'il reste de 25% sur l'acier et l'aluminium. Le président américain ne tarit pas d'éloges sur le Premier ministre britannique. Il est plus critique sur l'Europe et a estimé vendredi qu'elle devrait se ressaisir et mettre un terme à l'immigration qu'il a qualifiée d'horrible invasion. Mais il a aussi dit en mai dernier que Ursula von der Leyen était fantastique et les relations personnelles comptant beaucoup pour Donald Trump, les voyants sont peut-être ouverts. Aussi vert qu'un terrain de golf écossais.
Marie Billon, Donald Trump doit aussi rencontrer le Premier ministre britannique Keir Starmer. Sous pression internationale, Israël a dit cette nuit avoir parachuté de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza dans un communiqué diffusé sur Telegram. Un largage aérien composé de 7 lots contenant de la farine, du sucre et des conserves. Une méthode par ailleurs critiquée par les Nations Unies et les ONG.
Un an après les Jeux Olympiques de Paris, l'heure est au bilan et à la colère.
Pour Tony Estanguet, le compte n'y est pas. Le président du comité d'organisation des JO n'a pas hésité hier à tacler la baisse envisagée du budget du sport dans le budget d'austérité annoncé par François Bayrou. Coup de gueule politique partagé par Marie-Jo Pérec, mais celle qui a allumé la vasque olympique n'oublie évidemment rien de la magie de ces Jeux.
Le temps file trop vite, mais c'est vrai que ce qui reste, c'est en fait, ce sont ces moments d'émotion, de partage, de voir en fait la population qui a été happée par les Jeux, par la magie des Jeux. C'est historique. Moi, je pense que pour nous, les athlètes, c'était une très belle reconnaissance. Moi, je pense que finalement, ça a ramené beaucoup de gens en France. Il y a beaucoup de touristes parce que les images, elles ont été dans le monde. C'était des images vraiment très, très belles. Et puis, bon, je pense qu'on est un peu déçus parce que, bon, le budget du sport est un peu coupé. Donc, forcément, on se demande pourquoi cela. On est peut-être un peu plus sur la retenue, sur cette partie-là. Ouais.
Marie-Jo Pérec au micro d'Hortense Crépin.
Il est 6h36 sur RTL, les sports, le cyclisme.
Tour de France 2025 sur RTL.
Ultime étape, la 21e. Si l'arrivée est bien sur les Champs-Élysées, le peloton fera d'abord un crochet au nord de Paris avec 3 boucles dans la butte Montmartre, parcours qui s'inspire du tracé des JO l'été dernier. Sauf abandon, c'est bien Tadej Pogacar qui sera sacré ce soir son 4e titre, Nicolas Georgerot.
Oui, le bilan sera moins éclatant que celui de l'an passé. 4 étapes, peut-être 5 si ça le démange en traversant Montmartre tout à l'heure. Tadej Pogacar a relégué Vingegaard à 4 minutes 24 et il finit éprouvé, dit-il, bien emmitouflé dans sa veste, bonnet sur la tête et cache-cou bien ajusté.
Chaque année, on dit « Waouh, le tour cette fois était plus dur, c'est la course la plus dure qu'on ait faite, etc. » Mais là, je vous le dis honnêtement, ce tour était d'un autre niveau, l'un des plus durs que j'ai fait.
Depuis Greg LeMond, il y a 35 ans, aucun champion du monde en titre n'avait remporté le tour. Tadej Pogacar menace plusieurs records, celui d'étape, 21 pour l'instant. Les 35 de Cavendish ne sont pas inatteignables. Et avec 4 succès à Paris, le Slovène peut voir venir. Il atteint cette marque à 26 ans. Hino et Merckx avaient un an de plus, Anquetil 3 et Indurain 4. Le record des 5 triomphes peut trembler.
Le Tour de France sur RTL, c'est toutes les 30 minutes une fois la course lancée avec Nicolas Georgerot, l'arrivée en direct, puis le club Jalabert. Émission spéciale pour l'arrivée à Paris de 19h à 21h avec Hortense Crépin et les envoyés spéciaux de RTL. Dernière étape du Tour de France, deuxième étape du Tour de France Femmes. Aujourd'hui 100% bretonne, le peloton a rendez-vous dans le Finistère pour un tracé accidenté entre Brest et Quimper, long de 110 km. Hier, c'est la néerlandaise Marianne Vos qui s'est imposée dans le Morbihan.
C'est parti pour les mondiaux de natation à Singapour.
On retrouve sur place l'envoyé spécial de RTL, Isabelle Langer. Bonjour.
Bonjour les amis. Isabelle, le sprinter Maxime Grousset a plongé ce matin dans le grand bassin et ses mondiaux commencent très bien pour lui.
Oui, il s'est qualifié facilement pour les demi-finales du 50 mètres papillon avec un temps canon. Il a réalisé le meilleur chrono de ses séries en 22 secondes 74 à égalité avec le Suisse Neo Ponti. Un Maxime Grousset plus que satisfait, vous l'imaginez bien, de sa mise à l'eau.
Facile en plus, puis avec une touche un peu très très longue. Je pensais pas faire ce temps en vrai. Je tourne et je fais 22-7 avec une touche comme ça. Non, franchement, c'est très cool. Je me suis senti très bien. Une forme de maîtrise, on va dire, dans la vitesse. Ne pas partir dans tous les sens. Rester bien capitaine de son bateau, on va dire. Je pense que je peux avoir encore plus d'aisance et de facilité. J'ai l'impression que je peux repartir pour un deuxième 50. C'est plutôt bon signe. Donc, c'est cool. Très bon point pour ce matin. Ça donne très confiance. C'est chouette.
Maxime Grousset espère maintenant que ses copains du relais 4x100 vont se qualifier dans quelques minutes pour la finale qui aura lieu ce soir en début d'après-midi pour vous. Une finale à laquelle Grousset compte bien participer.
Merci Isabelle Langer, envoyée spéciale de RTL à Singapour. Et à noter que Léon Marchand, le nageur star de Toulouse, entre lui dans la compétition mercredi avec les séries du 200 mètres 4 nages. Et puis un mot d'escrime, l'équipe de France féminine d'épée a décroché l'or hier au championnat du monde de Tbilissi en Géorgie. Les tricolores l'ont emporté face à la Russie qui concourt sous bannière neutre. Score 45-32. C'est la première médaille d'or mondiale des Bleus depuis 2008.
Merci beaucoup Chloé Geffroy. Vous revenez à 7h30. RTL.fr en attendant pour toute l'actualité sportive notamment. Nous, on repart sur la grande boucle.
Suivez le cyclisme sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Antoine Decarme.
RTL, dans les coulisses du Tour.
Eh oui, c'était le rendez-vous quotidien de cette grande boucle. Tous les matins, Antoine Decarne vous a fait découvrir l'envers du décor. Et pour ce dernier épisode des coulisses du Tour, on parle évidemment de ce passage inédit des coureurs sur la butte Montmartre. Bonjour Antoine.
Bonjour, bonjour à tous.
Et vous avez rencontré Thierry Gouvenou, le directeur de course et traceur des étapes du Tour.
Et bonjour Thierry.
Oui, bonjour.
Cette dernière étape, elle est très attendue depuis maintenant un an et on y est. Pouvez-vous me parler de la genèse de ce passage à Montmartre ?
Oui, bah ça vient vraiment avec les Jeux Olympiques. Voilà, je pense que tous les Français sont très fiers des Jeux Olympiques qui se sont déroulés à Paris. Et une des images fortes de ces Jeux Olympiques, ça a été la course en ligne avec le passage à Montmartre. Et c'est vrai que bah voilà, au Tour de France, ça nous a donné des idées. On voulait modifier un peu notre dernière étape. Et là, on a eu la certitude qu'il fallait passer par Montmartre parce que c'est magique.
Comment ça s'est passé pour l'organiser ? Ça a été un peu compliqué avec la préfecture de police de Paris ?
Oui, clairement. Bah voilà, ça change un peu du schéma habituel. D'habitude, on tourne sur les Champs-Élysées. Voilà, on impacte très peu les riverains. Là, avec ce nouveau parcours, on impacte beaucoup plus les Parisiens. Et donc, il a fallu avoir des garanties de l'administration. Ça a pris du temps. Il fallait étudier toute la complexité du dossier. Et c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps. Mais bon, ça valait le coup de travailler pour avoir ce genre d'étape.
Alors, Thierry Gouvenou, il y aura trois passages sur la butte Montmartre. Qu'est-ce qui fait sa particularité ? Pourquoi elle est difficile, cette côte ?
Alors oui, c'est vrai qu'il y a trois passages. On voulait vraiment faire quelque chose de sportif, pas juste une balade. On veut qu'il y ait du sport sur cette étape-là. Alors, la particularité de la côte de Montmartre, c'est qu'elle est en pavé, déjà. Elle est assez étroite. Et donc ça va obliger les coureurs à faire beaucoup d'efforts pour être bien placés au pied. Et puis après, ben, il faut avoir l'aptitude de rouler sur des pavés, donc c'est pas donné à tous les coureurs. Et on va être dans un style plutôt de classique flandrienne plutôt que le Tour de France.
Justement, à l'annonce de ce parcours, il y a plusieurs coureurs favoris du classement général, bon, qui ne le sont plus parce que les écarts sont maintenant bien figés, mais comme Jonas Vingegaard qui disait que ça allait rajouter du stress. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Oui, c'est évident que ça va rajouter du stress parce qu'il va y avoir une vraie compétition. Après, les coureurs sont dans leur rôle. Lorsqu'on leur propose des chemins blancs l'an passé, voilà, ils râlaient. Mais si le Tour de France avait été resté toujours figé dans ses schémas, il n'y aurait jamais eu d'évolution et le Tour n'aurait jamais connu cette expansion. Quoi.
Au moment des Jeux Olympiques, c'était il y a un an, il y avait eu une liesse populaire exceptionnelle, notamment sur la rue Le Pic. Vous espérez la même chose ?
Oui, alors déjà, ce Tour de France 2025 est marqué par une foule incroyable. Sur toutes les étapes, on a un monde de dingue. Ça m'étonnerait qu'à Montmartre, il n'y ait personne.
On va fêter aussi les 50 ans de la première arrivée sur les Champs-Élysées. Est-ce que cette dernière étape renouvelée peut permettre à un non-sprinter de gagner?
Alors, oui, évidemment, lorsqu'on pense à Pogacar, on sait qu'il peut gagner sur tous les terrains. S'il a l'envie, s'il attaque dans la dernière montée de Montmartre, ce sera quand même assez difficile d'aller le rechercher. Il faudra vraiment que des équipes se regroupent pour pouvoir aller le rechercher. Et bon, si au final on a le maillot jaune qui gagne sur les Champs-Élysées pour le 50e anniversaire de la première arrivée sur les Champs, on ne sera pas déçu.
Est-ce qu'on peut parler des conditions météo? Est-ce que ça peut changer beaucoup de choses sur cette dernière étape?
Alors oui, dans nos règles, on a une particularité à Paris. S'il se met à pleuvoir, on fige les temps sur le premier passage sur la ligne après le début de la pluie et on fait dérouler l'étape. Elle n'a plus d'influence sur son classement général final. Alors la météo est un peu mitigée, donc on doit attendre jusqu'au dernier moment, mais on saura s'adapter.
Donc la course c'est tout à l'heure, on suivra ça avec grande attention, et vous espérez, j'imagine, une étape de folie.
Oui, une étape de folie, mais bien sûr que depuis le départ, quasiment toutes les étapes ont été folles, et il n'y a pas de raison que la dernière ne soit pas folle.
Merci beaucoup Thierry Gouvenou.
Bonne journée.
Voilà pour les explications du directeur de course. Antoine, depuis 3 semaines, vous nous présentez la commune du jour, un point particulier où se joue l'étape. Pour cette dernière journée, quel est votre choix ?
Eh bien, ma commune du jour, c'est évidemment Paris, que les coureurs retrouvent après être arrivés à Nice l'année dernière. JO oblige. Et quoi de mieux pour moi que de finir par la capitale pour ces dernières coulisses du Tour. Des plus petits villages aux plus grandes villes, de Cassel dans le Nord, en passant par Sarriant dans le Vaucluse, et jusqu'à Villars-sur-Doron en Savoie, les communes du jour nous ont permis de voyager dans notre pays, de découvrir la richesse de la France, et cela pour mon plus grand bonheur.
Et ça s'est entendu, je peux vous le dire. Merci pour le voyage, merci pour ces coulisses du Tour. Antoine Decarne, envoyé spécial de RTL sur la Grande Boucle. On le retrouve ce soir avec toute l'équipe dans le club Jalabert, émission spéciale, hein, de 19h à 21h avec Hortense Crépin et toute l'équipe du Tour de RTL. Dans un instant, on va rester en région parisienne, l'Île-de-France, comme vous ne l'avez jamais vu. On va notamment parler des vignes franciliennes, c'est la destination du jour.
Antoine Cavallero, RTL Matin Weekend.
Du 29 août au 8 septembre, venez vivre avec RTL la 79e foire de Châlons en Champagne.
13 hectares de gastronomie, d'agriculture, d'automobile, d'ameublement, de convivialité et de musique. Car la foire de Châlons, c'est aussi foire en scène avec les plus grands artistes français.
Yannick Noah, Oshi, Eddy de Préto, Amir ou encore Jean-Louis Aubert.
Venez acheter votre billet pour la foire, 7 euros la semaine, 8 euros le week-end. Réservation sur foireenscène.fr.
Rendez-vous dès le 29 août à la foire de Châlons en Champagne avec RTL.
Le 30 septembre, le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est de retour. Renault s'y engage avec 3 modèles 100% électriques assemblés en France dès 120 euros par mois sans apport. Renault 5, Renault 4 et Mégane E-Tech. Nombre de bénéficiaires limité, inscrivez-vous dès maintenant sur Renault.fr.
R5 9 5 hors option. LLD 37 mois, 37 500 km. Prime CEE, dispositif leasing social de 6 302 euros déduite. Offre sous réserve de validation des conditions finales du dispositif. Réservé aux particuliers dès le 30 septembre 2025 si accordiaque. Conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RTL Matin
avec Antoine Cavallero.
Dans moins d'un quart d'heure, il sera 7h, vous aurez droit à un nouveau journal. Et cette nuit d'angoisse dans l'Aude, le secteur de Stigeon touché par un incendie, il a parcouru 600 hectares de végétation. Des gymnases ont été ouverts pour accueillir les personnes évacuées. Ce sera l'image du jour en Écosse, la rencontre entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. En jeu, un possible accord pour éviter la guerre commerciale. Et puis, il y aura le Tour de France. Que pense le peloton de Montmartre? Nos envoyés spéciaux ont posé la question aux coureurs. Et la destination du jour dans RTL Matin Weekend, on y vient, c'est l'Île-de-France, la région parisienne avec ses terroirs. Jean-Sébastien Petit-Demange, on peut avoir du mal à le croire, mais par exemple, l'Île-de-France fut la plus grande région productrice de vin du pays.
Absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui, à Paris, en Île-de-France, il reste 12 hectares de vignes, mais le vignoble francilien a été le plus grand de France. Alors, les premières vignes, elles ont été plantées à Lutèce en 276. La vigne s'acclimate à très bien au climat de la région à cette époque et les vins produits étaient de bonne qualité, tant et si bien qu'au IVe siècle, l'empereur Julien fit l'éloge du vin produit sur la colline de Montmartre. Lutèce devint l'une des régions viticoles les plus importantes de la Gaule romanisée et c'est au Moyen-Âge que la culture de la vigne à Paris connaît un essor considérable grâce au travail des moines dans trois abbayes, Saint-Denis, Saint-Germain et Montmartre, qui produisent du vin, source de revenus non négligeable pour les évêques et les princes. Et au 18e, il y a 42 000 hectares de vignobles dans la région. C'est le plus grand vignoble de France.
On est à Paris, on est à Montmartre, on va aller voir justement Flora Granchette qui sillonne la butte en direct ce matin pour RTL. Et vous avez trouvé, Flora, les fameuses vignes sur le flanc nord de la colline.
Oui, et avec la pluie et les vignes, j'ai un peu l'impression d'être en Bourgogne, hein, franchement. Mais non, oui, je suis bien je suis au Clos de Montmartre. Les seules vignes de la butte, il y a environ 2000 pieds avec déjà de belles grappes de raisins. Et c'est vraiment étonnant. Le clos est complètement encerclé par les immeubles. J'ai eu la chance d'y rencontrer Jean-Manuel Gabert, qui est président de la Société historique du Vieux-Montmartre. Jean-Manuel, comme l'a dit Jean-Sébastien, il y a une vraie histoire du vin dans le quartier et à Paris.
Il faut s'imaginer que depuis le 3e siècle, les Romains ont introduit la vigne à Lutèce à l'époque. Donc voilà, Paris et le vin, c'est une vieille histoire. Et Montmartre est le plus beau village perché des portes de Paris, puisqu'il était en dehors de la ville. Et il porte des vignes et des moulins et des fermes. Voilà, c'est un village charmant. Sa force et sa légende va naître avec un mur fiscal, hein, parce que notre génie avait encore parlé. On avait inventé un mur fiscal des fermiers généraux. Et Montmartre était en dehors du mur. Donc c'est pour ça qu'on sortait faire la fête au milieu des vignes et que les meuniers accueillaient dans leur bal populaire les Parisiens.
Cette vigne, elle a failli disparaître avec, avec l'immobilier, j'imagine, avec
avec
la construction.
Deux choses. Montmartre entre dans Paris en 1860 avec Haussmann, urbanisation évidemment, et surtout révolution industrielle qui va faire disparaître toutes les vignes des alentours de Paris, Montmartre y compris. En fait, un événement incroyable va avoir lieu, c'est que les Montmartrois, épris d'indépendance, épris de garder l'idée d'un village dans Paris, vont tout mettre en œuvre avec leurs associations historiques. Et du coup, il va défier un peu les projets immobiliers et ils vont obtenir raison. Le vieux Montmartre obtient du préfet qu'on protège ce site et qu'on plante des vignes en mémoire du passé de la butte.
On voit déjà qu'il y a pas mal de grappes.
Oui, et donc une belle
forcément,
production.
Il va y avoir une production en octobre, c'est
et
ça?
En septembre, la récolte aura lieu. Elle est toujours à peu près en septembre. Et la récolte ira, ce qu'on ne sait pas toujours, en plein Paris, hein, dans les caves de la mairie du 18e arrondissement, seule mairie de France ayant des caves à vin, avec les cuves, les fûts, toute la fabrication technique professionnelle, ce qui va permettre au vin d'entrer en travail pour l'année suivante. Et puis, deuxième semaine d'octobre, la fête des vendanges.
Donc, du rouge, du blanc.
On est sur une quasi-totalité bientôt de rouge, avec un fruité très particulier qui étonne tout le monde, parce que c'est un vrai vin singulier qui porte aussi, lui, l'aromatique de Montmartre.
Alors justement, est-ce que c'est mieux que du Bourgogne ou du Bordeaux ?
Absolument, Montmartre est mieux que tout, tout le monde le sait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de touristes.
Jean-Manuel, hein, très fier de ce vin imaginé. La production 2024, c'est quand même 2500 bouteilles. Malheureusement, je ne pourrais pas vous en rapporter une en studio.
Non,
car on
ne
peut pas le déguster. Enfin, on peut le déguster qu'en venant visiter les vignes. Vous pouvez réserver une place sur le site du musée de Montmartre. Et où va l'argent récolté avec ce vin ? Eh bien, aux associations du quartier. Tout est redistribué dans l'esprit des premières cuvées du siècle dernier.
Bon, et on entend que les Parisiens sont chauvins. Merci beaucoup, Flora Granchette, en direct de la butte Montmartre. Jean-Sébastien, petit demanche, vous vouliez revenir quand même sur le déclin, en fait, du vignoble francilien.
Alors, en gros, aujourd'hui, on fait 40 000 bouteilles en France, mais il y a quand même une route des vins franciliens à découvrir. Ça va du vignoble du Trianon, du château de Versailles, jusqu'au Jardin des Plantes, en passant par le Clos de Montmartre et la vigne de Bercy. Mais il faut savoir aussi que jusqu'au XXe siècle, le vin accompagnait les efforts quotidiens des travailleurs de la terre. Il était considéré comme un aliment dont l'énergie était aussi revigorante que celle d'un potage. Et il faut se souvenir d'une chose, c'était en 1956.
Un menu scientifiquement équilibré tient compte, en ce qui concerne le choix des boissons, de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans.
Jusqu'en 1956, les enfants de moins de 14 ans avaient droit à du vin à l'école, à la cantine. En fait, on buvait du vin comme de l'eau parce que le vin était source de force d'une part, et parce que surtout à partir du Moyen-Âge, tous les apports romains dans le transport de l'eau ont été oubliés et on est revenu à un stade très primitif. Et là, l'essor de l'urbanisation a apporté son lot de problèmes à l'approvisionnement en eau potable, et ce jusqu'au 19e siècle, d'où les vignobles, les brasseries, la production de cidre et autres boissons fermentées qu'il y a eu dans toute la France, parce que le vin et tout cela n'a jamais été vecteur d'épidémie. Aujourd'hui, ça se boit avec modération et l'eau est potable.
Et le fameux, c'est bien. Le fameux adage, un verre de vin par jour éloigne le médecin. On rappelle que la science, hein, la médecine disent tout à fait autre chose. Le vin, vous l'avez dit, c'est avec modération. Merci Jean-Sébastien. On continue d'explorer la région parisienne avec vous dans un instant. C'est un portrait incontournable. Le portrait de Beyoncé, c'est dans quelques secondes.
Passez un bel été et un bon week-end sur RTL avec Antoine Cavallero.
It's high noon in the west at Southern California's Big FM.
Tout l'été, juillet et août, revivez sur RTL les Good Old 60s comme sur les plages de Californie. Retrouvez-moi les vendredis, samedi et dimanche soir dans Beach Party sur RTL de 22h à 23h.
Antoine Cavallero, RTL Matin Weekend.
Et voici venu le temps du portrait incontournable du jour, la vie de Beyoncé, la mégastar américaine qui vient de boucler hein, sa tournée Cowboy Carter Tour. La dernière date ce week-end à Las Vegas. On se souvient de sa venue au Stade de France, c'était il y a 2 mois. Marie Jekyll, expliquez-nous d'abord pourquoi on l'appelle la Queen.
Queen Bee, c'est une icône de la pop culture. Elle règne sur l'industrie musicale depuis qu'elle a le micro entre les mains. Elle domine les charts, d'abord avec les Destiny's Child en 1997. Puis, en solo, son premier album Dangerously in Love s'est écoulé à des millions d'exemplaires. Premier album et déjà une dizaine de tubes. Depuis, Beyoncé, 43 ans, enchaîne les succès avec des ventes qui font tourner la tête, des clips devenus iconiques et aucun flop, pas de bad buzz. 60 millions d'auditeurs par mois sur Spotify, plus de 300 millions d'abonnés sur Instagram, pas mal de records de titres aussi à son palmarès, artiste la plus certifiée disque d'or aux États-Unis, artiste féminine la plus récompensée de l'histoire des Grammy Awards, les victoires de la musique américaine, première chanteuse noire à remporter le Grammy du meilleur album country avec son disque Cowboy Carter cette année. Beyoncé, c'est aussi une queen qui fait tomber les barrières, qui défend les minorités. Ses albums délivrent des messages politiques forts, féministes, antiracistes. C'est aussi l'un des porte-drapeaux de la communauté afro-américaine aux États-Unis. Par exemple, dans son album Cowboy Carter, Beyoncé célèbre les origines noires de la country. Elle chante, elle prouve que c'est aussi une fille du Sud et donc qu'elle peut s'emparer de ce genre musical-là et aussi du style. Chapeau de cowboy, veste à franges, Santiago, ambiance Far West, eh bien c'est le dress code de ses concerts.
Bon, Marie, Beyoncé pèse dans le game musical, on le comprend bien, mais aussi dans les affaires.
Beyoncé, femme d'affaires à la tête d'un empire avec plusieurs marques, lignes de vêtements de sport, whisky, soins capillaires. Sa fortune est estimée à 800 millions de dollars et avec son mari, le rappeur et producteur Jay-Z, il serait le couple de stars le plus riche du monde avec une fortune à plus de 2 milliards de dollars grâce à leurs tournées respectives. Alors est-ce que Beyoncé ne serait pas milliardaire comme le chante Jay-Z dans sa chanson Family Feud?
What's better than one billionaire? Two?
Quoi de mieux qu'un milliardaire? Deux. Alors Beyoncé laisse planer le doute. Enfin, en bonne businesswoman, Beyoncé pense à sa relève puisque Blue Ivy, première fille qu'elle a eue avec Jay-Z, est déjà sur scène avec elle. Elle a sa propre chorégraphie et Beyoncé la présente déjà comme une artiste.
niggas that know, cause my flow keeps us dope. Tripping like foes, like I'm from the H-O-U-S-T-O.